Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour, dans le cadre du partenariat établi entre Canal Académie, la web radio de l'Institut de France et l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'occasion du 40e anniversaire de cet établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture, nous poursuivons notre promenade naturaliste. Après avoir évoqué certaines espèces chassables ou non chassables, après avoir abordé les territoires sur lesquels s'exercent les missions des agents de l'ONCFS, ou les problématiques auxquelles ils sont confrontés, en termes de droit, de police notamment, c'est aujourd'hui dans une démarche plus esthétique et plus ludique que nous allons parler de la chasse et de la nature. Avec moi dans le studio de Canal Académie, Claude Dantenez. Claude Dantenez, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le conservateur du musée de la chasse et de la nature à Paris depuis 1998.
Exactement.
Vous avez une formation de juriste, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes né je crois en 1956. Et vous avez eu un parcours attaché au patrimoine et à la diffusion de la culture française en étant longtemps, je crois, à l'Alliance française, notamment directeur de l'Alliance française de Singapour de 1996 à 1998.
Voilà. Et auparavant, j'étais inspecteur des monuments historiques pendant une dizaine d'années.
Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur de ce musée de la chasse et de la nature, qui est un lieu que beaucoup de nos auditeurs connaissent, un lieu qui est somptueusement installé dans un des plus beaux hôtels particuliers du Marais, l'hôtel de Montgelas. C'est un musée que vous avez considérablement transformé. Peut-être qu'avant d'évoquer la diversité et la richesse de ses collections, et puis d'évoquer le dynamisme que vous avez su insuffler à cette institution, on pourrait donner l'histoire de ce musée qui est rattaché aussi à une fondation.
Oui, effectivement, c'est un musée singulier dans le paysage parisien, puisque c'est un musée privé. Évidemment, les initiatives privées, surtout remontant aux années 60, ne sont pas si fréquentes dans le domaine culturel. À l'origine, il y a un couple de mécènes, François Sommer et son épouse Jacqueline. François Sommer est originaire d'une famille des Ardennes, de famille d'industriels, qui était très impliquée à la fois dans l'essor de l'aéronautique et aussi dans l'industrie du feutre. Et François Sommer a développé considérablement son entreprise après-guerre en créant les moquettes économiques où justement on collait une couche de feutre sur un film en plastique, bon, ce qui lui a donné des moyens importants. Mais ça n'est pas pour ça que nous en parlons aujourd'hui. En fait, il a, dès son plus jeune âge, fait l'expérience de la chasse des grands espaces, notamment dans le territoire de chasse familiale qui était le parc de Belleval, qui est actuellement la propriété de la Fondation. Et de cette expérience de la faune et de l'espace français, il est passé à l'Afrique à l'occasion de raids aéronautiques au-dessus de l'Afrique, où il a en fait été complètement enthousiasmé, passionné par ce paysage. Et finalement, ça a été donc une des grandes causes de sa vie que de s'intéresser à l'animal sauvage, à la fois à sa chasse, mais aussi à sa protection. Puisque dès l'origine, en fait, il y a ce double aspect.
La dimension de préservation de l'espèce.
Voilà, c'est un chasseur respectueux de l'environnement et il va militer pour la création de réserves en Afrique. Et en France aussi, puisque c'est lui qui est en grande partie responsable de l'institution des plans de chasse, qui est une façon justement de préserver le grand gibier et on lui est tributaire justement de l'essor spectaculaire du grand gibier, des cerfs, des sangliers, etc. dans la France contemporaine. Alors, il est donc très chasseur et comme beaucoup de chasseurs, il cherche à prolonger le plaisir finalement très éphémère de la capture du gibier à travers une activité de collectionneur. Et donc, il constitue assez rapidement une collection de trophées avec ses propres trophées de chasse, mais également, il collectionne les ouvrages de chasse. C'est un bibliophile, il a donc un fonds de bibliophilie tout à fait remarquable, avec de très nombreux traités rares concernant la chasse depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et puis, il a malheureusement la tristesse de considérer qu'il n'a pas d'héritier, et il va vouloir en fait se survivre et faire perdurer sa collection à travers l'institution d'un musée. Il y a beaucoup d'expériences, d'initiatives individuelles qui, finalement, de création de musées qui sont issues de ce constat, en fait, d'absence de postérité. Donc, avec son épouse Jacqueline, ils vont vouloir constituer un musée et créer une fondation pour à la fois défendre leurs différents idéaux relatifs à l'animal, à sa protection, à la chasse, à la sportivité de la chasse. Donc, fondation qui sera donc chargée de recevoir les collections et de les présenter au public. Alors François Sommer, indépendamment de son passé d'industriel très très efficace hein, et prospère et de chasseur, a aussi eu un comportement tout à fait remarquable pendant la guerre, parce qu'il s'est engagé auprès du général de Gaulle falsifiant ses papiers d'identité pour pouvoir être incorporé dans les forces françaises
libres.
Et il a donc été bien sûr compagnon de la libération. Il a participé à de très nombreuses opérations aériennes pour soutenir les alliés. Donc il est proche finalement de tout ce personnel politique qui va fonder la Ve République. Il a ses entrées à l'Élysée.
Proche des cercles de pouvoir, voilà. Ce qui est important pour la suite.
Tout à fait. Et donc, quand il va vouloir créer cette fondation, il en parle au général de Gaulle, qui le met bien sûr en rapport avec son ministre de la Culture de l'époque, qui n'est autre qu'André Malraux. Et André Malraux poursuit à l'époque le grand dessein de réhabiliter le Marais, qui est en triste état. Et donc, André Malraux va essayer d'intéresser François Sommer à la restauration d'un des édifices en péril. Et il va lui attacher un de ses collaborateurs, qui est Christian de Langevia, le jeune énarque, qui va donc... accompagner François Sommer dans des nombreuses visites d'hôtels particuliers. À l'époque, l'hôtel Salé est un hôtel disponible, trop grand. Il y a d'autres hôtels dont le sort paraît préoccupant. Et il y en a un qui est complètement disponible parce qu'en fait, il a été exproprié par la ville de Paris. C'est l'hôtel de Guénégaud, qui est dans un état un peu catastrophique. Mais bon, c'est là, donc, en fait, François Sommer va implanter sa fondation avec la partie musée. Et puis une partie club, puisque c'est un aspect assez original.
Voilà, la dimension triple est importante. Un musée, une fondation qui supporte ce musée et un club.
Et un club. Club qui est à la fois une caisse de résonance pour les activités de la fondation et puis un lien social entre le musée et la société civile. Donc le musée est créé en 67, inauguré en grande pompe par André Malraux, qui, je crois, son discours en témoigne, est assez sensible justement à ce mélange un peu insolite entre les trophées de chasse, les armes, les œuvres d'art. Bon, et ensuite, il va vivre pendant quelques années, mais François Sommer meurt assez rapidement après l'instauration du musée et ne va pas, en fait, lui permettre d'évoluer. Et au même moment, il y a dans la société française une espèce de crise liée à la perte des racines rurales et crise qui se traduit par une espèce d'incompréhension, voire de rejet par la société urbaine de la chasse. Vous savez ce dont il s'agit, vous en avez probablement déjà parlé. Si bien que, à la fin du XXe siècle, la fréquentation du musée est devenue assez décevante, quasi confidentielle. C'est dans cette perspective que j'arrive, que je suis nommé pour conduire la rénovation et l'agrandissement du musée, puisque...
Donc en 1998?
En 1998, puisque après la mort de François Sommer en 1973, puis de Jacqueline, son épouse, en 1993, la fondation a été confiée à Christian de Longevial, donc le jeune énarque dont je parlais tout à l'heure, qui a pris quelques années en cours de route, et qui va en fait conduire la fondation avec beaucoup de brio, puisqu'il va lui donner des moyens donc, beaucoup plus importants que ceux qu'il a trouvés à son arrivée. Et ce qui va lui permettre de réaliser le testament de François Sommer. Alors celui-ci avait effectivement, avant de mourir, laissé quelques pistes d'action et quelques souhaits. Donc, l'action, c'est bien sûr de défendre l'animal sauvage, défendre une certaine éthique de la chasse. Et les souhaits, c'était celui de pouvoir développer son musée, puisqu'il avait conscience que, en comparaison de tout ce qu'il avait à dire sur ce sujet, la place lui manquait singulièrement. Donc la fondation, sous la présidence de Christian de Longevial, a la possibilité d'acheter l'hôtel de Mongelat, qui est l'hôtel mitoyen. Et moi, j'arrive... conservateur très gâté, si je peux dire, dans la perspective d'avoir à
repenser toute la muséographie.
Alors voilà, c'est donc quelque chose qui est assez rare dans la vie d'un conservateur, mais tout à fait passionnant, qui consiste à effectivement pouvoir à la fois revoir la disposition générale, mais également le sens, l'interprétation qu'on va pouvoir donner à la collection. Puisque François Sommer a réuni le plus d'objets possibles relatifs à sa passion, mais les a présentés dans une perspective un petit peu encyclopédique, un peu utopique. Il a, en quelque sorte, cherché à montrer tout ce que la chasse représentait dans les différentes civilisations. Bon, le sujet est évidemment inépuisable, puisque la chasse est une des activités humaines
les plus
fréquentes. Oui. Donc, il y a un côté un peu Bouvard et Pécuchet dans cette présentation. Moi, j'étais très sensible en arrivant au fait que les collections étaient réparties par grands continents, et que, par exemple, il y avait une salle qui était censée représenter la chasse en Amérique, dans l'ensemble du continent américain, que François Sommer avait donc lambrissé de pitch-pain, donc pour faire un peu cabane de trappeur, et dans laquelle il y avait la confrontation extrêmement singulière et savoureuse d'un ours blanc, de poteries précolombiennes, de colts comme ceux de David Crockett, et puis d'une peinture de Kathleen, artiste américain qui représentait les chasses des Indiens. Et donc, voilà, d'une façon extrêmement elliptique, toute la chasse sur le continent américain était donc réunie ici.
C'était presque une installation finalement.
C'était une installation et en fait justement ça a été donc un peu la découverte. Ce musée très désuet, un peu déserté par le grand public, a été redécouvert par le public d'art contemporain à l'occasion d'interventions que j'ai pu faire en ce domaine dès mon arrivée. Et finalement, donc, à force d'être désuet, on finit par être à la mode. Et donc, j'ai profité de cette espèce de redécouverte et j'ai, donc, dans la nouvelle disposition, accentué la présence de l'art contemporain.
Alors, il y a une expression que vous utilisez parfois quand vous présentez le musée de la chasse et de la nature, c'est celle de cabinet de curiosité. Et c'est vrai que pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce musée, rue des Archives à Paris, ça n'est pas qu'un musée de la chasse ou ce n'est pas qu'un musée qui s'adresse aux chasseurs. C'est un musée, entre guillemets, pardonnez-moi si je me trompe, d'art décoratif dans lequel la chasse est au centre. C'est la valeur centrale de ce musée, mais elle est abordée sous un angle multiple. Vous parlez de cabinet de curiosité et effectivement, toute la scénographie que vous avez su développer fait qu'on n'a pas besoin d'être chasseur pour apprécier la visite qu'on fait de ce lieu.
Voilà, que la rénovation du musée a porté à la fois sur le fond et sur la forme. On ne s'est pas contenté de changer les tentures. Il y avait à la fois le désir de donner un caractère très décoratif, comme une sorte de maison idéale de chasseur, qui est donc constitué dans l'esprit de cabinet de curiosité, qui était un peu l'esprit d'origine, puisque ce que je disais tout à l'heure sur la salle d'Amérique était finalement assez symptomatique de l'ensemble de la présentation.
Sauf que c'était plutôt involontaire à l'époque première.
Oui, c'était
involontaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est voulu et
c'est assumé et accentué. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour la forme, et donc c'est un peu dans l'air du temps. Je suis pas le seul à faire ça, mais disons que là, c'est poursuivi de manière très systématique et je pense assez abouti. Sur le fond, comment aborder la question de la chasse dans ce contexte urbain du Paris du début du XXIe siècle, ça n'est pas absolument évident, parce que au fond, la plupart des gens à Paris se fichent complètement de savoir comment est-ce qu'on chasse. Il faut être conscient de la chose. Il y a une espèce de réprobation assez générale, puisque l'urbanisation fait que finalement nous sommes très très loin de la nature, nous l'idéalisons, et donc l'exercice de toute forme de violence vis-à-vis de l'animal est une chose qui est incompréhensible.
Et puis le rapport à la mort qui n'est pas le même.
Le rapport à la mort qui a changé. Donc, a priori, le public parisien n'a pas très envie de savoir comment est-ce qu'on attrape les petits lapins pour leur faire du mal. Bon. Donc, c'était pas, en fait, le propos que je voulais illustrer prioritairement. Il fallait bien sûr parler de la chasse, mais plutôt que de traiter des techniques de chasse, ce qui me paraissait intéressant, c'était de montrer l'évolution du rapport de l'homme à l'animal, ce qui, justement, en fait, autorise ou interdit, justement, l'exercice de la violence. Donc, pourquoi l'on chasse plutôt que comment l'on chasse? Donc, ça, c'est le parti intellectuel qui est illustré de salle en salle à travers une nouvelle disposition des œuvres et puis des compléments qui ont été nécessaires, justement, pour illustrer ce discours.
Gestion de la nature.
Préservation, en tout cas, gestion des espèces aussi, puisque donc, nous sommes toujours dans un contexte où il y a des nuisibles et des espèces protégées. Et, donc, l'idée qui préside à l'agencement du musée, qui est en fait la grande cause que la Fondation cherche à défendre, c'est que la nature ne peut plus se concevoir, si elle n'a jamais pu se concevoir sans l'homme, et que l'homme en fait exerce pleinement ses responsabilités. Elle va en ce sens un petit peu à contre-courant d'une certaine forme d'écologie radicale, et qui voudrait que finalement on laisse les composantes de la nature se débrouiller entre elles, que l'homme s'isole, et qu'en fait pour le mieux de la nature. Non, mais ça n'est pas possible.
Vous ramenez l'homme au centre du dispositif.
L'homme est au centre du dispositif.
Son action est indispensable, effectivement, voilà. Pour la tout à fait l'intervention, oui. Etc. Alors, c'est un musée aussi tout public. C'est un musée extrêmement interactif, sur un principe qu'on développe beaucoup aujourd'hui. C'est un musée où l'on touche, où l'on ouvre des boîtes, où l'on observe dans des lentilles, on touche. Ça n'est pas interdit. Alors ça, c'est aussi une dimension que vous avez apportée dans ce lieu.
Précisément, donc j'ai voulu explorer une forme d'interactivité un peu particulière, si l'on compare avec ce que font d'autres institutions qui développent justement l'aspect pédagogique. Donc cette pédagogie est présente, mais elle est un petit peu inusitée. Donc l'idée, en fait, est que toutes les informations sur les œuvres sont bien sûr disponibles, mais qu'elles se méritent, comme l'animal lui-même se mérite dans la nature. Donc il y a une espèce de transposition de l'exercice de la chasse à l'écriture muséographique. Donc il faut chercher avec les informations, et le visiteur peut s'approprier en quelque sorte les lieux et les collections, d'une manière peut-être plus forte que dans d'autres endroits. Donc, les animaux ont l'air d'être en liberté, sans
mise en situation.
Oui, tout à fait. Le visiteur peut effectivement toucher beaucoup de choses, et notamment ces espèces de meubles cabinets qui ponctuent la visite, dans lequel il va un peu par hasard découvrir les empreintes de l'animal, les excréments,
les empreintes.
Toutes les traces finalement que l'animal laisse sur son passage. Et donc, cette espèce de forme d'appropriation quasi clandestine, parce que ça n'est pas l'habitude dans les musées, fait que le visiteur se trouve dans une espèce de climat émotionnel un peu particulier, comme si, en fait, il était dans la maison des trois ours, vous savez, le fameux conte de Boucle d'Or, où on sait qu'on est dans une maison qui est habitée par une présence animale et que peut-être le maître des lieux va revenir à un moment ou à un autre. Donc, il y a cette espèce de côté assez passionnant, assez grisant, et qui, je pense, je l'espère en tout cas, de nature à développer la capacité émotionnelle du visiteur.
Comment est-ce que vous expliquez cette proximité historique entre les arts et la chasse? Bien sûr, la sculpture, la peinture, vous parliez de la bibliophilie, là, il y avait un côté pédagogique dans ces traités, etc. Mais on pense au fameux Woodry ou aux des portes que vous exposez. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce lien historique avec la chasse, qui n'est pas un genre noble, c'est pas la peinture d'histoire, on est dans autre chose?
Alors, en fait, je relativiserai un petit peu ce que vous dites, parce que je crois qu'effectivement, l'art et la chasse, bon, c'est présent depuis les origines, hein, puisque les peintures rupestres sont faites dans un contexte de chasse. Mais finalement, la chasse en tant que telle n'est pas si présente que ça. Et même, curieusement, elle est assez peu présente au musée de la chasse. Parce que autant l'art animalier est très abondant, hein, jusqu'à une période récente, autant l'action de chasse ne correspond pas aux critères du pittoresque. Parce que d'abord, elle est mouvement, hein, et donc, contrairement à ce que souhaitent les artistes, elle se déploie dans un vaste théâtre, et donc c'est difficile de résumer ça, une seule scène, une seule action. Donc ça n'est pas très pittoresque. Donc je pense que quelqu'un comme François Sommer, quand il constitue sa collection et qu'il veut réunir l'iconographie de la chasse, est finalement assez embarrassé. Et il achète précisément, vous avez raison de le signaler, donc les peintures de Jean-Baptiste Woodry, François Desportes, qui sont de merveilleuses peintures animalières, mais où la présence de la chasse est très allusive. Ce sont souvent des natures mortes avec du gibier mort, parfois des portraits de chasseurs, mais sinon, vous voyez, de beaux perdreaux, de beaux faisans dans la nature, et rien ne dit qu'ils vont terminer à la casserole. Hein,
donc, je pensais à quelques alalis qui étaient quand même assez parlants.
Ils sont peu présents dans le musée.
Oui.
Et au fond...
Moins qu'à Gien, c'est vrai.
C'est plus dans la peinture du 19e siècle, je pense qu'on a justement des scènes de chasse à proprement parler.
Alors, vous avez su justement inviter de nombreux artistes contemporains qui sont simplement des artistes d'aujourd'hui. Je me souviens d'une exposition qui était remarquable, qui je crois a eu un très grand succès, qui était celle où vous avez fait venir Karen Nord. Quelle était cette volonté qui avait justement d'inviter ces artistes d'aujourd'hui, qui sont pas forcément des artistes chasseurs, mais des artistes naturalistes, entre guillemets, avec le contenu que vous y mettrez-vous, sans doute?
Oui, alors le thème principal du musée et des expositions temporaires, c'est que le rapport de l'homme à l'animal, que nous essayons d'explorer à travers la création d'artistes contemporains. Donc une artiste comme Karen Knorr, justement, donc, travaille sur la question de la confrontation entre la nature et la culture en introduisant, grâce à ces photos numériques, des animaux sauvages dans des lieux de culture et en suscitant donc une espèce de trouble. Mais bon, elle s'inscrit dans une programmation qui a eu en fait de nombreux autres artistes.
Oui, Françoise Petrovitch.
Françoise Petrovitch, qui, elle, parle du rapport de l'enfant à l'animal. Donc, en fait, l'animal est extrêmement présent dans l'art contemporain, mais on ne peut pas parler d'art animalier. Et je sais que beaucoup de visiteurs qui sont donc proches du milieu chasseur et qui sont très désireux de retrouver des artistes qu'ils connaissent sont parfois un petit peu surpris parce que ces artistes... de l'art contemporain, puisque c'est une catégorie bien définie, s'intéresse finalement assez peu à représenter l'animal pour lui-même. Donc, l'animal y est toujours en tant qu'image d'autre chose. Donc, voilà. Et finalement, les artistes qui utilisent les nouveaux médias et qui conjuguent à la fois une démarche art contemporain et un intérêt pour l'animal sont assez peu nombreux. Et ils le font plus dans une perspective un peu deleuzienne, du devenir animal, plutôt que de s'intéresser au comportement de l'animal.
J'imagine que ces expositions ont drainé un public nouveau, c'était sans doute le but, bien sûr. Et comment le public traditionnel, entre guillemets, a réagi, lui, face à ces expositions, ces mises en scène?
Alors, je pense qu'après un moment où le public a pu être un petit peu déconcerté par ce caractère singulier, inusité du musée, je peux dire que je suis un conservateur heureux puisque le musée a retrouvé son public, qui est un public qui est composé à la fois de familles, puisqu'il y a un caractère ludique très évident, les animaux sont là, on peut les observer, il y a tout ce dispositif pédagogique qui est une sorte de jeu. Donc ça, c'est une partie importante. Il y a un public d'art contemporain, puisque effectivement l'art contemporain émaille tout le parcours, il est intégré aux collections permanentes permanente d'une manière donc, assez aboutie, donc quelque chose qui est un peu original par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres musées. Et puis il y a un public d'amateurs d'art, puisqu'en fait les collections, notamment les collections du XVIIIe siècle, sont tout à fait remarquables. Et d'art décoratif, puisque la visite du musée de la chasse est l'occasion de voir un bel hôtel du Marais.
Avec des pired rooms, comme on fait maintenant, voilà. Effectivement, qui sont tout à fait à l'image de celles qu'on peut voir aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que ce musée a des équivalents en Europe ou de l'autre côté de l'Atlantique?
Alors, beaucoup de musées, enfin, beaucoup, les musées d'abord consacrés à la chasse ne sont pas très nombreux. Hein, donc, il y a 3 musées de France en France sur ce thème.
On a évoqué le Gien tout à l'heure.
Musées avec lesquels nous avons des rapports historiques depuis très longtemps et qui ont une certaine familiarité, une certaine similitude de conception. Sinon, il y a d'autres musées en Europe, mais qui sont en général des musées très liés au milieu chasseur. Ils sont issus des fédérations de chasse. Finalement, le musée le plus proche, à la fois par la diversité des collections et par ce caractère un peu de cabinet de curiosité, je dirais que c'est le musée de Munich, qui est installé dans une ancienne église, qui est le musée de la chasse et de la pêche, et qui a un côté un peu surréaliste, parce que c'est une espèce d'accumulation d'objets improbables et qui, en fait, peut être visité justement comme une installation d'art contemporain également.
Le fait d'être héritier comme ça d'une tradition et surtout d'une fondation, avec j'imagine des dispositions fixées par le couple sommaire qui sont très précises, c'est une limite ou au contraire l'interprétation qui s'en fait, ce qui semble-t-il le cas, et vous permet d'être assez libre?
À dire vrai, les dispositions testamentaires de François et Jacqueline Sommaire n'étaient pas si contraignantes.
Et on n'est pas à Chantilly.
Non, nous ne sommes pas à Chantilly, ça permet une certaine liberté pour l'évolution. Donc, en fait, ils ont essentiellement donc, fixé donc, les grandes causes qu'ils souhaitent défendre, et puis la destinée des collections au cas où la fondation viendrait à disparaître. On sait que donc, les collections doivent être données à la ville de Paris. Voilà.
Et indépendamment des cycles d'exposition, vous avez actuellement d'autres projets importants?
Alors, nous développons des opérations de mécénat dans différents domaines. D'abord, d'aide à la création en matière d'art plastique. Donc, nous sommes en train de mettre en place des résidences d'artistes dans l'ancien territoire de chasse des Sommaire, qui est situé dans les Ardennes.
À Belleval.
Et qui va, à Belleval, oui, qui va accueillir à peu près 4 résidences d'artistes plasticiens ou musiciens ou écrivains, donc de gens qui sont en fait désireux de se ressourcer dans un contexte sylvestre, s'inspirer de cette culture synergétique. Donc ça, c'est un point qui est assez important. La Fondation développe aussi des aides à projets, donc dans le domaine culturel, en essayant justement de défendre cette approche humaniste de l'écologie. Et puis, il y a aussi un aspect littéraire, puisque la Fondation a créé depuis maintenant plus de 20 ans un prix littéraire qui a été réorganisé l'année passée et qui vise à récompenser 3 écrits, une fiction, un essai, une étude, donc relative justement au rapport de l'homme à l'animal et toujours dans cette perspective d'écologie humaniste.
Et alors, nous sommes à la fin de l'été, au début de l'automne, les expositions reviennent. Est-ce qu'on peut dévoiler peut-être les expositions à venir jusqu'à la fin de l'année au Musée de la Chasse et de la Nature?
Alors, nous avons pour l'instant donc, une exposition faite par un collectif d'artistes d'origine hollandaise qui s'appelle la Polynesian Instant Geography et qui, sous prétexte d'une pseudo-approche anthropologique de l'art des îles Marquises, revisite le caractère de cabinet de curiosité du musée et insère des propositions d'art contemporain qui traitent de diverses choses, du rapport de l'homme à l'animal, mais aussi du réchauffement de la planète, etc. Donc, une exposition qui est assez engagée pour les questions environnementales. Et à partir du 20 décembre, nous présentons une exposition de cibles peintes qui prend place dans la saison croate, la saison culturelle croate, puisqu'il y a toute une tradition germanique, en fait, de ces cibles qui sont des sortes de trophées pour les compétitions de tir et qui sont confiées à des artistes. Et nous mettons en relation ces cibles, parfois très belles et datant du XVIIe au XIXe siècle, avec des œuvres d'art contemporain qui utilisent le même motif ou le même procédé de créer pour détruire.
Alors Claude Dantenaise, une dernière question. Nous sommes ici à l'Institut de France, qui reçoit et qui est habilité à recevoir des legs. Est-ce que c'est le cas de votre musée? Est-ce que vous recevez comme ça des œuvres nouvelles qui viennent enrichir vos collections ou qui s'ajoutent éventuellement à une politique d'acquisition d'œuvres nouvelles?
Alors, le musée donc dépend d'une fondation qui est reconnue d'utilité publique, donc elle bénéficie de ses avantages, elle peut recevoir des legs ou des dons d'argent qui sont déductibles des revenus, ce qui concerne cette dernière partie. Alors, il est certain que les dons et les legs vont, dans la société contemporaine, a priori plutôt vers les causes sociales que les causes culturelles. C'est un peu secondaire, mais nous avons bénéficié dans le passé de dons importants d'œuvres d'art.
Alors, je vous laisse rappeler l'adresse exacte de ce musée de la chasse et de la nature à Paris.
Donc, le musée est situé au 62 rue des Archives, c'est-à-dire donc, juste derrière les Archives nationales, et occupe maintenant donc 2 très beaux hôtels du Marais.
L'hôtel de Mongelas et l'hôtel de Guénégaud. et sans doute un site internet qui permet d'aller un peu plus loin.
www.chassenature.org.
Claude Dantenez, je vous remercie.
Je vous en prie.